Et c'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. La planète se réchauffe et l'Inde étouffe. Le mois de mars a été le plus chaud jamais enregistré avec 9 degrés de plus que la moyenne. Il a même fait jusqu'à 50 degrés au Pakistan. Le futur locataire de Matignon sera attaché aux questions sociales, environnementales et productives. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant de son profil. Il devra aussi tenir l'objectif du plein emploi. Dans ce journal aussi, la face cachée de Patrick Poivre d'Arvor, un document choc dans Complément d'enquête ce soir à regarder sur France 2. Vous découvrirez sans doute aussi comme moi un nouveau mot, peut-être que vous ne connaissez pas Nicolas,
non. La
phrénotomie. Bah, vous en saurez plus à la fin de ce journal. Et puis on finira sur la fragrance du muguet dont on n'arrive pas encore à tirer un parfum.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin, candidat à sa réélection aux législatives.
France Inter.
Des records de chaleur comme jamais, Christelle, après l'Europe, l'Asie.
L'Europe a vécu son été le plus chaud l'an dernier. La température de la mer Baltique a même grimpé de 5 degrés. La planète transpire de plus en plus et de plus en plus vite. Au nord de l'Inde et au Pakistan, le thermomètre s'affole tellement que ça devient intenable. 42 degrés mardi à New Delhi. Une correspondance de Sébastien Farcy.
33,1 degrés, c'est la moyenne des températures maximales du mois de mars en Inde. Un niveau de chaleur jamais enregistré en 122 ans et 1,8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Le réchauffement du climat n'est plus une théorie scientifique en Inde. Il se ressent au quotidien et à des niveaux encore plus intenses qu'ailleurs. Le printemps ne dure maintenant plus que quelques jours et l'été arrive plus d'un mois en avance. Il fait maintenant entre 40 et 45 degrés au maximum dans le nord de l'Inde, soit déjà plus de 4 degrés de trop pour la saison et le mercure pourrait avoisiner les 50 degrés dans les semaines à venir. Le problème est que ces vagues de chaleur extrêmes aujourd'hui courantes rendent tout travail en extérieur périlleux. Or, la majorité des Indiens vivent de métiers informels, ouvriers de chantier, vendeurs de rue ou chauffeurs de triporteurs. Ces personnes modestes seront donc parmi les premières à souffrir, voire à mourir de ce dérèglement climatique. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Il est 7h32, il y aura sans doute de l'émotion ce matin au Conseil des ministres.
Oui, le dernier du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le président toujours maître des horloges, ne dit rien sur la suite. Tout au plus a-t-il concédé hier que le futur locataire de Matignon sera quelqu'un attaché aux questions environnementales, sociales et productives. Une chose est sûre, le travail restera une valeur cardinale et le président vise toujours le plein emploi. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Le taux de chômage est actuellement de 7,4%. On connaîtra les chiffres de Pôle emploi sur le premier trimestre à la mi-journée. Mais le plein emploi, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors le plein emploi, ça ne veut pas forcément dire un taux de chômage à 0%. Les économistes spécialistes du marché du travail le situent plutôt aux alentours de 5%. C'est un niveau incompressible lié au temps qu'il faut parfois pour changer d'emploi ou en trouver un après ses études. Chez les cadres, on y est, estime le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau. Mais attention aux chiffres, la définition statistique du plein emploi ne veut pas forcément dire que tous les problèmes sont réglés.
Le taux de chômage des cadres en France est de l'ordre de 4%, mais ça ne veut pas dire que c'est le plein emploi de tous les cadres. À partir de 50-55 ans, c'est plus difficile et malgré que l'on puisse considérer au plan statistique qu'on est au plein emploi, en réalité, il y a pour beaucoup de cadres encore aujourd'hui, malgré leur expérience ou des jeunes diplômés, malgré leur diplôme, une difficulté à revenir dans l'emploi ou à entrer dans le monde de l'entreprise.
Et pourquoi Emmanuel Macron fait-il du plein emploi son objectif social numéro un ?
Parce que c'est du niveau d'emploi que dépendent une partie des recettes de l'État, fiscales via l'impôt sur le revenu, sociales via les cotisations versées par les salariés et les employeurs. Difficile de savoir si l'objectif du plein emploi est atteignable, tant les incertitudes économiques liées au Covid et à la guerre en Ukraine sont grandes. Mais Emmanuel Macron compte bien sur la poursuite de l'embellie du marché de l'emploi pour financer ses promesses de campagne.
Fabien Cazot, les partis, eux, ne chôment pas pour les législatives. Il n'y a pas de point insurmontable entre les Insoumis et le PS. Fait savoir LFI. C'est inédit depuis 14 ans. Les gauches ne sont pas irréconciliables, déclare Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, ajoutant dans les colonnes du Figaro, en prévision des critiques à suivre, une coalition n'est pas une soumission. Le Rassemblement national, lui, lance sa campagne pour les législatives à Fréjus, dans le Var, tout à l'heure, là où Marine Le Pen a largement battu Emmanuel Macron dimanche dernier. Il a préféré prendre les devants. Patrick Poivre d'Arvor a porté plainte hier pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes femme qu'il accuse de harcèlement ou d'agression sexuelle. Il dénonce, je cite, « le lot d'excès et de dérives du mouvement MeToo », alors que France 2 diffuse ce soir un document dans complément d'enquête baptisé PPDA, la chute d'un intouchable. Une enquête sur l'ex-présentateur star de TF1 mise en cause par 25 femmes. Une enquête sans concession, Alexandra Hakoun.
Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver.
C'est l'histoire d'un homme qui pendant 30 ans a été une star de l'information, le présentateur préféré des Français, un personnage rendu puissant par ses succès d'audience à TF1.
C'était lui qui était la locomotive au fond de la chaîne. Et il était intouchable.
Bien avant d'être accusé de viol et d'agression sexuelle, PPDA s'était déjà sorti sans égratignure de plusieurs scandales.
Alors la devise de Cuba, c'était le socialisme.
Fausse interview de Fidel Castro, affaire Botton, où il écopera tout de même de 15 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour abus de biens sociaux, plagiat de la biographie d'Hemingway, Romain Verlet qui signe cette enquête accablante et a travaillé au JT de TF1, reprend tout en détail, témoignage à l'appui.
Si vous êtes à la recherche du pouvoir de Patrick Poivre, c'est dans cette alliance entre Patrick Poivre, Étienne Moujotte et l'équipe de Moujotte, au poste clé de la rédaction, que se trouve la réponse.
Une équipe qui ne pouvait ignorer ce que savait toute la rédaction.
Il repérait les très belles femmes et les draguait lourdement. Il y avait un carnet qui était disponible pour toute la rédaction pour qu'on puisse se joindre. PPDA pouvait accéder à tous les numéros, ne se privait pas de le faire.
Et puis il y a ce témoignage inédit et glaçant d'une ancienne stagiaire de Radio Classique.
Il m'a basculé avec ses mains sur la moquette.
C'était en 2015, les faits ne seraient donc pas prescrits. À ce jour, 25 femmes ont témoigné contre Patrick Poivre d'Arvor. 17 ont porté plainte, dont 8 pour viol.
Et vous pouvez retrouver un dossier sur l'application France Inter. La légitime défense n'a pas été retenue. Le policier qui a tué 2 personnes et en a blessé une autre dans une voiture sur le Pont Neuf à Paris dimanche soir a été mis en examen notamment pour homicide volontaire. Le syndicat de police Alliance dénonce, je cite, une décision inadmissible. Après Moscou, Kiev, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres est attendu dans la capitale ukrainienne aujourd'hui. Il se rendra notamment à Boutcha, théâtre d'exactions imputées à l'armée russe. Quant au dossier du gaz, la Bulgarie et la Pologne privées de gaz russe se fournissent désormais auprès de leurs voisins européens. Le président Zelensky exhorte l'Europe à ne plus dépendre des échanges commerciaux avec la Russie. Rien ne va plus entre le Mali et la France. À la brouille diplomatique et militaire s'ajoute désormais un dossier médiatique. Radio France Internationale et France 24 sont définitivement suspendues. Les deux chaînes étaient déjà interdites de diffusion dans le pays depuis le 17 mars par la junte. La décision a été confirmée hier soir par la Haute Autorité de la Communication du Mali, Delphine Evenou.
C'est un reportage diffusé mi-mars qui a mis le feu aux poudres entre les deux chaînes et les autorités maliennes. Les journalistes y donnent la parole à des victimes d'exactions qui auraient été commises par l'armée malienne et le groupe privé russe Wagner. La Haute Autorité de la Communication au Mali donne donc raison à la junte et rend définitive la suspension de RFI et France 24. Dans un communiqué, leur maison mère France Média Monde s'insurge d'une décision infondée et arbitraire. RFI et France 24, très suivis dans le pays, comptent désormais sur les ondes courtes, les réseaux sociaux, YouTube et bientôt des sites miroirs comme ce qu'il se fait en Russie pour que les Maliens puissent continuer à suivre leurs reportages. Cette interdiction intervient alors que les relations entre Paris et Bamako sont pour le moins tendues. Cette semaine encore, la junte a accusé l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées au drone au centre du Mali à proximité d'une base récemment restituée par la France. Paris qui a annoncé en février le retrait de ses soldats à présent dans le pays d'ici cet été.
Delphine Evenou, c'est une opération inutile. L'Académie de médecine lance un message d'alerte totalement inédit. Arrêtez de couper le frein de la langue des bébés. Alors le frein de la langue, c'est ce petit bout de chair qui relie la langue au plancher de la bouche. Depuis une dizaine d'années, les pédiatres, les ORL, les dentistes constatent une augmentation spectaculaire du nombre d'ablations ou de sections de ce frein de la langue, soi-disant pour améliorer l'allaitement. En réalité, à Nuremberg, c'est surtout une mode dangereuse véhiculée par les réseaux sociaux.
Face à ces douleurs d'allaitement, Caroline cherche des solutions auprès des puéricultrices, du pédiatre, mais reste sans réponse.
Du coup, j'ai regardé sur Internet et commencé à découvrir les freins de langue qui seraient restrictifs, qui empêcheraient les bébés de bien téter.
Sur les forums Facebook, Caroline est orientée vers une conseillère en lactation qui la dirige sur une ostéopathe, puis vers un ORL. Et sur leur conseil, elle fait couper le frein de langue de sa fille d'un mois et demi.
Je regrette de m'être fait embobiner par les réseaux sociaux et après de plonger en fait dans un système de soignants qui font que ça. En fait, je suis pas sûre que c'est cette intervention qui ait permis que ma fille ne me fasse plus mal en allaitant, c'est peut-être juste le temps.
Car oui, aucune étude ne prouve à ce jour la pertinence de la frénotomie linguale pour améliorer l'allaitement. En revanche, cette chirurgie du frein de langue peut avoir des effets secondaires graves, prévient le professeur André Chaïs de l'Académie de médecine.
Vous avez, pas loin du frein de langue, les deux petits canaux qui drainent l'excrétion des deux sous-maxillaires, les canaux de Wharton. Vous avez des artères et des veines dans le coin en pagaille. Et puis, vous avez derrière le muscle lingual. Et le muscle se défend très très mal contre l'hémorragie.
L'Académie recommande donc de ne recourir à la frénotomie que lorsque toutes les autres solutions ont été essayées. Et elle espère que des études rigoureuses soient enfin menées.
C'est assez atterrant, Nicolas. Alors, pour s'en remettre, on va faire de la radio olfactive. Si vous aimez l'odeur du muguet, vous savez que c'est un plaisir éphémère. Eh bien, une jeune entreprise basée en Loire-Atlantique, AB 1882, tente de l'extraire pour en faire un parfum, un vrai, pas synthétique. Sophie Costanzer a assisté à la cueillette du muguet à Saint-Philbert-de-Grandlieu, près de Nantes.
Sur chaque brin, les clochettes sont détachées une à une à la main, sous le regard de Marie Giffaut, la femme qui n'accepte pas que le muguet soit une fleur muette.
Donc là, on est en train de couper les petites clochettes pour les disposer sur les cadres qui ont été enduits de graisse végétale. Ensuite, les cadres, on va les manipuler, on va les empiler les uns sur les autres pour créer des chambres d'exhalaison.
Et une fois l'enfleurage terminé, il faudra passer en laboratoire, explique Marie Giffaut, directrice d'AB 1882. C'est la partie plus technique pour obtenir un absolu. Et ensuite,
il faudra que le parfumeur évalue son intérêt olfactif, sa durabilité par exemple. Comme il est naturel, est-ce qu'il va avoir une tenue sur la peau qui soit suffisamment longue et intéressante, puisque c'est ce qu'on attend d'un parfum.
Pour cette expérimentation, ce sont les parcelles de Jean-François Vinet qui ont été mises à disposition, l'un des 10 principaux producteurs de muguet du bassin nantais.
Elle utilise des vieilles techniques, c'est une personne de notre région, donc tout ça a beaucoup de sens pour nous, au niveau des maraîchers nantais, d'avoir ce délicat parfum de muguet qui puisse être présent au quotidien tout au long de l'année. Et pas seulement, comme nous, la fleur symbole porte-bonheur du 1er mai.
Et si tout se passe bien, le muguet devrait livrer son parfum naturel dans un flacon en 2024.
Et vous l'avez sans doute constaté dans vos jardins, le muguet est en avance cette année.
Oui, merci Christelle Rebière, l'édito politique à suivre.